Eh bien, bonjour. Donc, vous allez voir une discussion que nous avons eue il y a quelques heures avec Stanislas Berton. Stanislas Berton, et sur son dernier livre, qui est un livre très intéressant. Je vous avais déjà présenté son livre précédent, qui était sur lequel j'étais d'accord sur à peu près tous les points. Et là, nous avons eu une discussion un peu vive, ce qui est toujours amusant. Tout en étant d'accord sur la plupart des sujets, mais c'était sur les solutions. Nous avons eu quelques différends. Mais je trouve que c'est une bonne chose que l'Institut des libertés, nous n'ayons pas que des. Soyons pas d'accord sur tout. De temps en temps, il faut accepter les différences. Donc on a eu une discussion vive. Je vous invite à la regarder parce que je trouve que c'est très bien, parce que c'est deux façons différentes de considérer, non pas les problèmes, mais la façon dont ils doivent être résolus. Et j'en profite pour une fois de plus manifester tout mon intérêt, toute mon admiration pour la pensée de cet homme qui est encore jeune, mais qui a déjà beaucoup réfléchi et dont je crois que les analyses valent la peine d'être lues. En tout cas, moi je les lis. Merci infiniment. Et surtout, ne vous faites pas de soucis, c'est pas parce que on est actif dans la discussion qu'on n'est pas capable de s'entendre. Mais je ne dis pas ça pour des raisons désagréables, je dis ça simplement parce que je pense que des discussions, mettons, viriles, allez, comme on dit au rugby, vous savez, quand il y a un match viril, c'est quand c'est mis des claques, mais c'est pas après ça, on va boire une bière ensemble, et tout le monde y est content. Merci infiniment, et surtout, lisez le livre. Merci. Je reçois, vous êtes sans doute une des rares personnes que j'ai reçues déjà une fois, donc vous êtes là deuxième fois que vous venez. Et j'avais beaucoup aimé votre livre précédent. Je vous reçois avec mon complice en crime, comme je dis toujours, Jean-Jacques Netter. Et pour être parfaitement honnête, ce livre, votre deuxième livre... Troisième livre, oui, enfin le deuxième que j'ai lu moi, m'a agacé. Ce qui n'est pas très grave, puisque dans le fond, le but de ces réunions, c'est de se mettre sur la gueule poliment. Donc... Alors, pourquoi m'a-t-il agacé? Je fais une petite présentation, puis ensuite on va discuter. Donc, c'est un livre qui est sur la situation française, qui commence par un diagnostic, et dans le fond, que nous sommes dans une période extraordinairement dangereuse et où ça peut se terminer très mal. Je crois que sur le diagnostic, je n'ai rien à dire, parce que il suffit de sortir dans la rue pour se rendre compte que vous avez raison, quoi. Donc, et que les causes que vous avancez vont très bien. C'est les solutions que j'ai pas aimées. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas aimé ces solutions, et ensuite je vous laisserai, j'interviendrai avec vigueur pour vous agresser, comme je sais le faire quand je suis agacé. Mais parce que pour moi, il n'y a de solution qu'individuelle. C'est-à-dire que c'est chacun d'entre nous qui doit s'améliorer. Il n'y a pas de solution collective. Or, vous prenez dans la deuxième partie de votre livre un retour à l'ordre collectif. Ce que je voudrais, c'est que chaque Français, je sais que c'est complètement utopique, mais c'est le rêve chrétien, si j'ose dire, utopique, chacun d'entre nous doit s'améliorer. Il n'y a pas d'amélioration de société, il n'y a d'amélioration qu'individuelle. Et donc là, vous prenez toute une série de, par exemple, remettre les enfants en uniforme à l'école, pourquoi pas mon Dieu, mais ça doit être une décision des parents qui géreraient l'école en question. Et si vous voulez pas que vos enfants soient en uniforme, vous les mettez dans une autre école. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne veux pas donner des ordres aux gens. Je veux qu'ils suivent ce qui est bon pour eux et que ce soit eux qui le déterminent librement. Alors je sais bien que c'est une utopie, mais je déteste l'ordre pour l'ordre. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis philosophiquement... C'est quelque chose qui me broute, enfin qui m'agace terriblement.
Et rien ne ressemble à la situation actuelle dans ce que tu décris.
Non, l'ordre pour l'ordre, non. On est en train d'essayer de nous imposer un nouvel ordre moral qui n'est pas un ordre. Et là où je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est ce que je dis aux gens en ce moment. Je m'excuse de parler beaucoup de moi en début de ce, mais c'est pour expliquer pourquoi je suis agacé. Donc c'est comme ça, vous pourrez vous défendre ensuite. Et c'est de vous dire ça, c'est que dans le fond, il y a deux pays en Europe qui sont devenu fou au XXe siècle. C'est la Russie et l'Allemagne. Complètement fou. L'un avec le communisme, l'autre avec le nazisme. Ils sont devenus fous. Or, j'ai l'impression que toute notre civilisation est en train de devenir folle. C'est-à-dire qu'on est atteint de folie collective, comme ces deux pays ont été atteints. Et donc, c'est pas par un retour à l'ordre qu'on résoudra cette folie, c'est simplement par un retour à la raison. C'est-à-dire qu'on revienne, ben, si j'ose dire, à ce qui était autrefois le base de notre civilisation, c'est-à-dire la prééminence du fait. Les hommes et les femmes sont différents. C'est pas pareil. Je sais bien que moi, je me sens de temps en temps une femme quand je me lève le matin, mais c'est pas vrai. Je suis un homme. Je l'ai toujours été. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que on a abandonné ce qui faisait le cœur de notre civilisation, c'est-à-dire la prééminence de l'individu qui doit déterminer par lui-même quels sont les faits qui l'intéressent. Et aujourd'hui, on est en train de passer dans une pensée magique, et c'est pas en retournant à un ordre ancien qu'on va régler le problème. C'est-à-dire qu'il faut détruire cette pensée magique. Et à ce moment-là, l'ordre reviendra de lui-même. Voilà, j'ai jeté mon venin. Mais non, expliquez-moi exactement pourquoi vous pensez qu'un retour à l'ordre, ce serait déjà un bon début, mais s'il n'est pas intériorisé par chaque individu, ce retour à l'ordre créera des problèmes.
Alors, on est d'accord là aussi sur le constat.
Sur le constat, il n'y a pas de problème.
Moi, je vous répondrai, Charles, que je pense que vous êtes justement un utopiste.
Ben, tout à fait, je l'ai toujours été.
Je pense, et moi, ce que j'ai essayé de regarder, ce qui est au cœur de ma démarche, c'est les faits. Qu'est-ce qu'est le peuple français? Et moi, j'ai une, ce qui a guidé tout mon travail, et qui était déjà très présent dans le livre précédent que vous avez beaucoup aimé, moi, j'ai cité l'idée fondamentale que chaque peuple a son anthropologie, et que l'anthropologie de chaque peuple détermine une forme d'organisation politique, économique et sociale. Donc je pense qu'il faut trouver ce qui correspond à chaque peuple. Et vous, la vision que vous avez, qui est la vision, je dirais, individuelle...
Du peuple de Dieu.
Voilà, non mais c'est une vision d'un libéral, vous êtes un libéral français, vous l'assumez.
Tout complètement.
Et vous avez une sensibilité...
Vous savez que le libéralisme est né en France. Hein.
Oui, absolument.
C'est pas une idée anglo-saxonne, je tiens à le dire tout de suite.
Oui, on peut citer Bastiat, Tocqueville, il y a ces...
Bastiat, Tocqueville, Montaigne.
Montaigne, absolument, donc vous êtes dans cette... Mais moi ce que je pense, c'est que c'est une réalité française, mais qui est minoritaire dans notre pays. C'est-à-dire qu'il y a un libéralisme français, mais qui est anthropologiquement minoritaire, qui est réel, mais qui ne correspond pas à ce qu'est le peuple français. Je pense que, dans les faits, on voit qu'il n'y a jamais eu de libéralisme qui s'est imposé en France, et la tradition historique, par exemple, on parle de l'activité économique, je sais que ça vous fait bondir, mais le moteur économique de la France a toujours été l'État ou la puissance royale. Avec les manufactures, ça a commencé avec les manufactures.
Je ne saurais être moins d'accord, parce que, si je peux me permettre, l'industrie, l'artisanat de luxe, etc., a commencé en France. Sous Henri IV, où il a fait venir tous les gens du côté du Faubourg Saint-Antoine, puis ensuite c'était repris par Louis XIII, et qui a développé ça, et ensuite il y a Colbert qui l'a foutu en l'air. Donc, si vous voulez, toute l'œuvre de Colbert a détruit tout ce tissu économique que les deux rois précédents avaient fait. Donc, il a pris au début les avantages de cette gloire, et puis ensuite, avec l'imposition, les dépenses de l'État, etc., qui ont tué tout ce petit monde. Donc, Colbert est celui qui a enterré la croissance économique française qui avait été faite par deux rois libéraux, qui étaient Louis XIII et Henri IV. Et on attribue à Colbert les résultats de Louis XIII et Henri IV. Mais c'est une contre-vérité historique. Mais allez-y, continuez.
Non, mais attendez, alors moi, on peut discuter de ça, parce que du coup, je pensais que vous m'interrogeriez là-dessus. J'ai potassé mon Colbert. Moi, je vois, par exemple, que Louis XIV ne voulait pas que l'argent français passe acheter des dentelles aux Hollandais ou aux Florentins, et a demandé qu'on crée de l'activité des manufactures de dentelles en France. Oui. Donc il y a eu quand même un développement économique des manufactures, notamment sous Louis XIV, qui est du fait de Colbert. Donc,
je ne dis pas le contraire, si vous voulez, mais il a détruit tout l'artisanat qui avait été créé par son père et son grand-père. Oui, c'était le grand-père. Oui, Henri IV, c'était le grand-père. On nous cite toujours le truc des dentelles. Mais à part ça, qu'est-ce qu'il a créé, cher garçon? Quand il est mort, si vous voulez, il a fallu l'enterrer de nuit parce qu'il était tellement haï à cause des impôts. Les impôts étaient invraisemblables. Il y a une vague de froid, un mini-âge glaciaire de 1705 à 1701 à 1710. Il y a eu, je crois, 5 millions de Français qui sont morts de faim parce qu'il n'avait rien préparé. Donc, il est mort avant. Bon, vous me direz, c'était pas lui le vrai responsable. Mais quand même, je voudrais qu'on arrête de me parler de Colbert et de Louvois. Parce que ça a été deux grands désastres.
Voilà. Moi, je ne rentrerai pas dans ce... Parce qu'on peut faire des débats sur Colbert et Louvois, mais par exemple, pareil, l'industrialisation de la France, c'est le Troisième Empire. de Second Empire, pardon, c'est Napoléon III. Donc il y a aussi encore, on retrouve encore
l'influence. Oui, mais qui a signé des traités de libre-échange avec plein de gens, dans l'Angleterre à l'époque. Donc il a pas... Parce que derrière ça, il y a même l'idée que j'ai toujours vue en France, qu'on est très mauvais, donc il faut qu'on soit protégé contre les méchants étrangers. Je vois ça en France en ce moment, par exemple, vous imaginez pas le nombre de débats que j'ai avec des gens qui me disent « mais tout ce qui nous arrive, c'est la faute de la Chine ». Je leur dis « mais foutez-moi la paix ». La Chine, elle a rien fait, elle a pas embêté la Suède, l'industrie suédoise va très bien, elle a pas embêté la Suisse non plus, qui a la monnaie la plus forte du monde. Donc la Chine, elle a rien à voir, c'est que pendant les années où la France s'est enfoncée, l'État français est passé de 45% du PIB à 61%.
Alors là, moi, pardonnez-moi de vous interrompre, mais je suis pas d'accord sur la Chine. Le problème de la Chine, c'est que la Chine était en concurrence directe, était sur la même niche, parce que les pays que vous citez, que ce soit l'Allemagne, la Suisse ou la Suède, sont sur des biens d'équipement. La France, on est historiquement sur des biens de consommation. Et on était en concurrence directe avec la production chinoise qui s'est positionnée dans un premier temps sur le même créneau.
Ben, qu'est-ce qu'il y en avait? Non, ben,
si vous voulez, ben, si, bien, mais... On était sur le textile, sur le petit électroménager, etc., sur les biens de consommation courante.
Ben, ça a tué Moulinex, mais ça n'a pas tué Seb, qui était bien géré.
Electrolux non plus,
ils vont très bien. Non, mais l'idée, si vous voulez, que nos échecs viennent de l'extérieur, est toujours la voie de la facilité. Dans le fond, c'est la même chose que de dire « c'est la faute des Juifs ». Ce qui est une imbécilité rare. On a remplacé la faute des Juifs, c'est la faute des Chinois. Les Chinois, c'est pas eux qui ont un code du travail de 3500 pages en France, qui empêche les gens d'avoir une entreprise en France. Et si c'est ça le colbertisme, non merci. Parce que vous savez, quand vous allez à Bercy, ce qui est un truc effrayant, je considère, c'est pour ceux qui peuvent, il faudrait organiser des visites à Bercy, parce que vous rentrez dans ces couloirs, et les immeubles s'appellent Colbert, Louvois, tous les gars qui ont ruiné la France, ils ont leur immeuble. Et vous avez des bureaux entiers fermés de part et d'autre, et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'ils foutent toute la journée? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pour foutre la France en l'air, quoi? Vous ne pouvez pas vous empêcher de penser que leur seul but, c'est d'empêcher les gens de bosser, quoi. Et donc, quand quelqu'un me dit que la solution, c'est d'empêcher les Chinois de nous vendre des trucs, plus ils seront concurrents avec nous, mieux on s'en sortira, à condition qu'on cesse d'emmerder les producteurs en France. Ce qui a tué l'économie française, c'est que la rentabilité du capital investi en France est 25% inférieure à ce qu'elle est en Angleterre ou en Allemagne. Et ben les Anglais aussi faisaient des biens de consommation.
Mais moi, je suis d'accord avec vous, on ne va pas créer une opposition là où il n'y en a pas. C'est-à-dire que moi, je partage complètement, et ayant été moi-même chef d'entreprise, je suis bien d'accord avec vous sur le fait qu'on a une bureaucratie pléthorique qui est un boulet qui traîne la France. On a créé de l'emploi public, notamment dans les collectivités locales, qui ne sert à rien, et qu'on a essayé de cacher la misère à mettre la poussière sous le tapis parce qu'on désindustrialisait d'un autre côté. Donc moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Il faut pas.
Vous avez lu ce livre extraordinaire qui s'appelait Vraiment débordé?
Oui, bien sûr.
Non, mais c'est un livre de cette femme à Bordeaux.
Mais par contre, moi, là où je suis pas du tout d'accord avec vous, c'est sur le culte du libre-échange, parce qu'il y a aucun exemple dans l'histoire de pays qui jouent le jeu. Tous les grands pays, par exemple, si la Chine s'est développée, c'est parce qu'elle a bénéficié du soutien de son État. Je veux dire, l'État chinois est entièrement responsable de la croissance chinoise. Il y a un plan, quand vous faites, et ça on peut le dire, c'est les chaebol en Corée, c'est la même chose, les conglomérats au Japon, c'est la même chose, même aux États-Unis, la Silicon Valley, on sait que tout qu'on nous vend, il y a quand même l'État américain qui soutient ça parce qu'il a vu l'intérêt géostratégique que ça avait, par exemple la CIA avec le fonds Intel qui a mis de l'argent.
Mais je ne dis pas que l'État ne doit pas mettre de l'argent, c'est pas ce que je dis. Je dis que la réalité, c'est que si vous voulez investir dans une société américaine en tant que contribuable américain, si vous perdez de votre argent, vous pouvez le déduire de vos impôts. En France, vous ne pouvez pas.
Et donc vous... dans les entreprises qui fonctionnent, on ne peut pas occulter le fait que les entreprises qui fonctionnent le mieux en France, qui sont des entreprises du luxe, elles n'ont rien à voir avec l'État. Et ce n'est pas l'État qui les aide. Donc c'est bien...
Il ne faut pas oublier que les marges de LVMH sont supérieures à celles de Microsoft. Quoi. C'est quand même... Parce que... encore une fois, il y a aussi la tentation de tous ces braves hauts fonctionnaires. C'est que s'il y a quelque chose qui a marché aux États-Unis, 20 ans après, on va le subventionner. À partir du moment où ça rapporte plus rien.
Non, mais ça, je suis...
Donc, si vous voulez, ça m'amène à la deuxième chose qui m'exaspère, c'est cette idée d'État stratège. Alors, s'il y a un truc qui est complètement idiot dans l'histoire, c'est l'idée que l'État est capable de faire de la stratégie. L'État stratège, c'est la ligne Maginot. Hein.
C'est aussi les plans d'industrialisation des Trente Glorieuses, quand même.
Là, les 30, mais on ne sait pas.
Nucléaire, qui nous ont donné.
Mais on a, j'entends bien, mais ça ne veut pas dire qu'il faut. Je ne veux pas dire que. Mais ça a été aussi la destruction de notre système d'enseignement.
Ah, ben ça, je suis.
Qui était aussi l'état stratège, hein, parce que c'était une volonté étatique de faire baisser la valeur de l'enseignement. Et on leur avait donné cette. On leur avait donné à l'État l'enseignement, qui était la richesse de la France, et ils l'ont détruit en 30 ans. Donc,
c'est une volonté idéologique post-68 par des gens qui ont voulu prendre ça.
Je sais
ça
pas, mais à partir du moment où vous laissez l'État prendre le contrôle de l'enseignement, vous lui laissez la possibilité idéologiquement de détruire le pays. Donc, et c'est ce qu'il va faire dans tous les domaines. Si l'État est capturé par une bande de crapules, la bande de crapules foutra en l'air le pays. Parce qu'ils s'en foutent.
Je vous ferai remarquer quand même que c'est peut-être dans des proportions moindres, parce que l'État, en plus en France, avec la concentration, il a la capacité de faire du mal partout. Mais par exemple, aux États-Unis, j'ai lu un article il y a quelques semaines, aux écoles privées, la catastrophe du wokisme, les gens paient 40 000 euros par an pour qu'on abrutisse et qu'on endoctrine leurs enfants. Donc ça peut aussi arriver dans le privé.
Oui, mais les gens ont le choix entre deux. Vous pouvez aller, par exemple, aller choisir une université dans le sud des États-Unis où on vous enseignera encore les libertés et tout et tout. Mais les grandes universités sont tombées sous le contrôle de grands groupes de pression. Bon, ben, très bien, mais ça veut dire qu'à Harvard, aujourd'hui, le diplôme vaut plus rien et qu'on le verra dans 30 ans, ce sera le diplôme du gars qui arrive de Raleigh, qui martyre. Donc, si vous voulez, c'est pas la même chose d'avoir des gens qui se suicident par bêtise, comme sont en train de faire les grandes universités américaines, et des gens qu'on tue. Là, si vous voulez, on a tué notre enseignement. L'État stratège. Parce qu'on l'a laissé prendre, pas. Donc, ce qu'il nous faut, c'est de la concurrence. S'il y avait une concurrence dans les systèmes étatiques, on n'en serait pas là où on est.
Alors, moi, on partage le même constat, et dans mon livre, je pense que vous l'avez vu largement, de l'effondrement cognitif.
L'effondrement cognitif, mais sans en donner la responsabilité au fait que l'État a pris le contrôle stratégique de l'éducation en 45. Avec Lanvin Vallon.
Alors, moi, là où je suis en désaccord avec vous, c'est que je pense que c'est pas. Je suis pour qu'il y ait plus de liberté, mais je suis aussi pour le fait que la question, c'est pas tant l'État en lui-même, c'est les gens qui sont dans le système étatique.
Mais vous êtes en train de penser que le calife est bon et qu'il faut changer le vizir, quoi. Mais c'est le vizir qui est mauvais, non, c'est le calife qui est mauvais.
Il y a quand même une réalité, je veux dire, les hommes qu'on met dans les structures, je veux dire, là on n'est pas juste dans la question de l'individu, c'est qu'on est dans un système qui sélectionne et qui porte
mais
à l'État
le vrai, tout à fait,
des gens qui
l'État.
Sont...
Mais ce qui s'est passé, c'est que cet État, quelque part, il avait une légitimité démocratique parce qu'on pouvait en changer les élites par l'élection. Or, ce qui s'est passé depuis Giscard, c'est qu'on a fait un système politique où on ne peut plus changer les élites. Donc, grosso modo, on retombe dans le problème précédent, qui est le contrôle de l'État a été pris par des gens mal intentionnés, malveillants et souvent malhonnêtes. Et ce contrôle de l'État, comme il est extraordinairement prégnant en France, sous l'idée qu'il est stratégique, ce qui est une grande connerie, comme ils prennent le contrôle du temps, ils font des dégâts gigantesques. L'avantage de la concurrence, c'est que s'il y a un type qui fait des bêtises, il disparaît. Quand c'est l'État qui contrôle l'éducation, s'il y a des gens qui veulent détruire l'éducation pour je ne sais quelle raison idéologique, et ils ont fait la même chose pour l'industrie. Ils ont décidé que l'État stratège français a décidé qu'il fallait favoriser le tourisme et les avions. Conclusion, notre industrie n'existe plus puisqu'elle a été liquidée. Mais ça a été volontaire quelque part.
Oui, mais donc là.
Donc c'est
là,
un État
là,
stratège. C'est... Mais oui, qu'est-ce qui vous permet de penser que des gens qui vont arriver seront plus intelligents que cela? Ils étaient très intelligents, ceux-là. Ils avaient fait toutes les meilleures études.
Bah oui, non, mais ça, c'est la discussion qu'on a eue la dernière fois. C'est ce que je vous dis. C'est les critères sur lesquels on sélectionne l'élite. Là, on a sélectionné des gens qui prétendent être une élite, mais en fait, qui n'en sont pas. Et vous avez, par exemple...
Si oui, mais vous êtes encore plus utopiste que moi.
Je suis pragmatique. Je constate ce qui s'est passé dans d'autres pays. Par exemple, en Russie, la Russie a opéré une résurgence. Elle est soutenue. Il y a l'État russe qui est très présent, je veux dire, notamment même à travers les oligarques que Poutine a su, je dirais, manœuvrer pour qu'ils se mettent plus ou moins au service de l'intérêt général. Je vois l'exemple de la Chine, mais par contre, qui ont des élites, on peut prendre l'exemple d'Israël aussi, où il y a une interconnexion, mais parce qu'il y a des élites de très bonne qualité. Moi, je pense que le vrai problème en France, c'est qu'on a des gens qu'on prétend être une élite, mais en fait, qui sont incapables. Alors forcément, où que vous les mettriez dans le privé, ça serait le même résultat.
Non, dans le privé, ils disparaîtraient très vite parce qu'ils feraient faillite et ils retourneraient nulle part. Tandis que là, l'embêtant, c'est que vous les mettez dans le public, que le public a beaucoup trop de moyens en France, et une fois qu'ils ont échoué ici, ils sont promus. On l'a vu avec l'ancienne ministre de la Santé, qui a été promue à l'OMS de façon à ne pas être poursuivie par des poursuites judiciaires. Donc, c'est une classe qui est à la limite du crime. La question, c'est vous ne pouvez pas vous en débarrasser en remplaçant cette élite par une autre qui serait bien intentionnée. Il faut rendre la parole en bas. C'est le seul qui a la légitimité pour reprendre le pouvoir, c'est le peuple, c'est pas une autre élite.
Si on prend le cas de Areva et de Madame Lauvergeon, un des rares succès industriels dus au général de Gaulle et à Pompidou, c'est d'avoir fait le pari nucléaire. C'était la carte majeure de l'industrie française, puisqu'on avait des coûts de production de l'électricité très bas. Madame Lauvergeon tue complètement ce qui était Framatome, Areva, etc., a des comportements que je qualifie pas dans le rachat de l'entreprise au Niger d'une mine d'uranium fantôme qu'elle rachète par l'intermédiaire de son mari, etc. Et rien. Donc comment on peut imaginer faire fonctionner des entreprises dans l'orbite de l'État s'il n'y a même pas un jugement sur des comportements qui sont... Oh, c'est pas moi qui les considère comme délictueux. Ça a été décrit en long, en large et en travers. Mais il ne se passe rien.
Regardez, on a reçu ici Charles Pratt avec ses 50 milliards de fraude à la Sécurité sociale. Le dossier est au ministère de la Justice. Aucune poursuite engagée. Parce qu'il faut préserver la paix sociale. Bon. Et donc, ça veut dire une chose, ça veut dire que l'État aujourd'hui a trop de pouvoir. Et si vous remplacez le vizir, vous changerez rien. Il faut changer le système de pouvoir, le rapprocher des gens en dessous. C'est pas en mettant des gens bien intentionnés que vous allez régler le problème. La constitution de la 5e est une saloperie invraisemblable. Il n'y a aucune séparation des pouvoirs, l'exécutif est complètement favorisé. Donc ce que j'essaye de dire aux gens, c'est reprenez le pouvoir vous-même, individuellement, dans votre village, partout. La solution n'est pas collective, elle est individuelle. Vous devez vous révolter individuellement.
Alors, notre opposition là n'est pas complète, c'est que moi je partage. J'aime pas d'ailleurs les solutions qui sont, je dirais, tout ou rien ou global. C'est-à-dire que moi je partage votre constat à l'échelle locale. Moi je suis un partisan du localisme. Je pense que l'État n'a pas à s'immiscer dans tous les domaines de la vie des citoyens. Oui, mais ça je suis d'accord avec vous, mais je pense que l'État doit être présent sur certains domaines qui relèvent de sa compétence et notamment sur certains domaines stratégiques.
Vous les connaissez, vous, les domaines
stratégiques? Oui, mais par exemple l'énergie. L'énergie, je pense que c'est un domaine où l'État doit être présent.
La Suisse a jamais manqué d'énergie? Oui, personne s'en est occupé.
La Suisse, c'est un cas vraiment très spécifique. C'est un petit pays.
C'est pas si petit que ça. Il y a une production industrielle qui est supérieure à la nôtre, en termes absolus.
Je suis d'accord.
Mais la Suisse, il n'y a pas eu de problème d'énergie. Je ne pense pas qu'il y ait eu des problèmes d'énergie. Vous me direz, ils avaient le gaz, mais en Hollande. Cette histoire de. Oui. C'est-à-dire que l'impression que j'ai, c'est qu'il y a eu une réussite grâce à De Gaulle et au moins de soldats qui ont monté la force nucléaire française et du coup l'industrie nucléaire, les deux allaient de pair. Et on nous dit, regardez l'état stratégique à monter ça. Mais on oublie les plans calculs, on oublie Fabius et tous les ordinateurs dans la classe, on oublie la détérioration. Tous les domaines où l'État a été, ça a été un désastre. Il y en a un où ils ont réussi un peu quelque chose, et on me dit, regardez l'état stratégique, ça marche,
aussi,
mais
arrêtez. Je veux pas défendre, vous me faites faire l'avocat du diable, mais il y a quand même aussi le transport. On a eu des réussites, par exemple, dans le domaine spatial, on a eu dans le TGV, on a eu...
Mais le TGV, ça s'est passé avec l'écroulement des transports locaux. Tout l'argent de la SNCF a été dans les TGV pour permettre aux types qui avaient des comptes à Luxembourg d'aller très vite au Luxembourg, comme ça leur posait pas trop de temps, ou à Bruxelles ou à Londres, je sais pas si vous avez remarqué, les élections rapides par train, c'est tous les endroits où les Français ont de l'argent à l'extérieur. C'est curieux, mais... Et puis si vous êtes à la Garenne Colombe, vous mettez une heure et demie pour rejoindre votre travail à la Concorde, quoi. Donc on a écroulé le confort du petit Français de base pour permettre aux types qui ont du pognon d'aller se balader. C'est pas ce que j'appelle un succès stratégique.
Et on n'a toujours pas de liaison ferroviaire entre Roissy et Paris, alors que dans toutes les capitales du monde...
Dans toutes les capitales, ça existe. Non, ce que j'essaye de dire, c'est que si on faisait un compte d'exploitation des investissements faits par l'État dans des domaines stratégiques, depuis 1945... ce serait un gouffre, à part le domaine énergétique et encore, on a perdu du pognon partout. l'État stratégique, donnez-moi un autre exemple que l'énergie. L'agriculture, ils l'ont foutu en l'air. Putain, c'était facile l'agriculture, on était plus. Maintenant, on est déficitaire en produits agricoles. Après la PAC. Bon, mais c'était l'État stratégique, c'était Chirac.
Oui, mais je vous dis, on est d'accord sur le. Je veux dire, non, moi, je comprends très bien sur les fonds de la mauvaise gestion par l'État.
Vous véhiculez, à mon avis, on a dit que ce serait.
Oui, je le savais. Hein. Je suis venu en connaissance de cause.
Non, ce que j'essaie de dire, c'est simplement ça, si vous voulez, c'est que. Il y a des véhicules, il y a des. Quand j'ai rencontré un certain nombre de politiciens en France, et plus ils étaient médiocres, plus ils parlaient d'État stratégique. Et c'était eux qui allaient être le stratège. Le type, il ne peut pas gérer une boutique à frites, mais il sera capable de... Donc l'État stratège, c'est le machin que le politicien médiocre français, il veut prendre le contrôle de l'État, parce que comme ça, j'imagine qu'il touchera plein de grosses commissions. Il y a une deuxième chose, si vous voulez, c'est l'État bénévolant. L'État, dans le fond, il est là. L'ennemi, et comme le disait Saint-Just, l'ennemi naturel de tout citoyen, c'est son État. Faut pas oublier. C'est que c'est un monstre qui a été créé, à qui vous avez donné le monopole de la violence légitime. Et la seule question de la science politique, c'est comment vous empêchez ce monstre de vous massacrer. Donc le seul but de la science politique, c'est de contrôler l'État. Est-ce que vous vous appelez à plus de pouvoir pour l'État?
Oui, mais alors moi, on est en désaccord complet. Hein, mais moi, je veux dire deux choses. C'est que quand je disais que vous êtes utopique, c'est que on voit les conséquences. Parce que vous dites, en fait, il faut redonner le pouvoir au local. Je veux dire, la première chose,
il faut redonner le pouvoir régalien à l'État, qui s'occupe de ce qu'il doit faire.
Oui, mais regardez, moi, je crains que l'anthropologie française étant ce qu'elle est, en fait, quand vous redonnez le pouvoir au local, vous multipliez juste la corruption locale. C'est-à-dire là, vous avez une grosse corruption qui est celle de l'État, et vous aurez juste un millier de petites corruptions partout en France. Et on voit, c'est ce qui s'est passé avec la décentralisation. On a dit, on va décentraliser, parce qu'il y a ce monstre bureaucratique de l'État. Moralité, maintenant, on a créé des régions, et c'est l'État dans chaque région. C'est-à-dire que vous avez un exécutif local, régional. Moi, je suis en province, donc je vois bien comment ça se passe avec les conseils généraux, les conseils régionaux. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, je demande leur suppression dans mon livre, parce qu'on a multiplié les micro-États au niveau local, et je pense que ça, malheureusement, c'est une
mais ça, j'ai rien contre la supprime. Hein.
C'est une spécificité française de dire que malheureusement.
Bah, c'est une spécificité.
Et on l'a exporté à Bruxelles.
Oui, et on l'a exporté à Bruxelles. Ça, je suis entièrement d'accord avec
vous. On l'a exporté à Bruxelles parce qu'on exporte que les. Vous savez ce que me dit toujours un de mes amis, c'est que les Chinois, leur spécialité, c'est d'exporter des virus qui foutent le monde entier malade, et les Français, c'est d'exporter des idées à la con qui foutent le monde entier malade et qui sont tous. Qui trouvent leur naissance à Saint-Germain-des-Prés en général.
Mais là où je suis pas du tout d'accord avec vous sur l'État, et ça, je sais que ça va vous faire bondir, c'est que la France, c'est l'État. Je
veux dire, j'ai jamais dit le contraire.
Mais c'est l'État régalien. Oui, mais la France a été structurée, mais c'est pas tout à fait exact, parce que la France a cette spécificité en tant que nation. Je dirais, il n'y a pas de peuple. Quand Louis XIV dit l'État, c'est moi, on dit que c'est mégalomane, mais ce qu'on dit jamais, c'est que c'est la phrase qui vient avant. Il dit, la nation ne fait pas corps en France. La nation est entièrement concentrée dans la personne du roi, l'État c'est moi. C'est-à-dire qu'avant, il y avait le roi qui était la clé de voûte du système.
Le pouvoir était incarné
et l'État était en fait l'émanation de la personne royale. Donc déjà on a cette relation très spécifique à l'État qui explique dans l'anthropologie politique française la persistance de ce rôle qu'on a à l'État. Et aujourd'hui l'État, comme on a tué le roi, il y avait, je dirais, le roi, en fait, il gérait comme un bon père de famille son royaume, si je simplifie. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a toujours ces structures inconscientes, anthropologiques qui existent. Donc, en fait, la France, elle attend cette gestion du bon père de famille qui va justement faire attention à ce qu'il fait, essayer tant bien que mal de faire le bien de son royaume. Mais le problème, c'est que ça a été, et je suis entièrement d'accord avec vous, il y a tous les gens qui sont engouffrés dans cette brèche et qui ont pris le contrôle de ce truc-là et qui l'ont transformé en monstre. Mais là où je suis pas d'accord avec vous, c'est vous, votre solution, c'est de dire on va bazarder tout ce truc-là. Et en fait,
On va revenir à l'État régalien. C'est-à-dire, il y a un certain nombre de domaines dans la vie qui ne peuvent pas être traités par le marché. La sécurité, la diplomatie, la défense nationale. Et ça, il est évident que là, les pouvoirs de l'État doivent être prééminents. Et les frontières, la monnaie.
Mais vous avez un exemple très rapide qui est celui du Pays Basque. Le Pays Basque français, le Pays Basque espagnol. Donc le Pays Basque français, il ressemble à la France et il est géré aussi mal qu'on peut l'imaginer. Le Pays Basque espagnol, on lui a dit à la mort de Franco, quel degré d'indépendance vous souhaitez avoir par rapport à l'État central. Et les Basques espagnols ont dit, on veut le maximum d'indépendance, y compris celui de lever l'impôt. Hein? Et l'État central, à l'époque, leur a dit, attention les enfants, si jamais ça va mal chez vous, faudra pas demander du tout d'aide de l'État central. Les Basques espagnols ont dit, on y va. D'accord? Ben, aujourd'hui, après Madrid, la région la plus prospère d'Espagne, c'est le Pays basque espagnol, industrialisé, rapide. Et pourquoi ils prennent des décisions très vite ? Parce qu'ils sont indépendants, ils lèvent leur argent, ils le dépensent et ils versent 11% du PIB pour les fonctions régaliennes de l'État. Et donc je trouve que c'est un laboratoire extraordinairement intéressant.
Ça permettrait de laisser les fonctions centrales de l'État et d'avoir les régions, et les régions qui se votent des trucs imbéciles, tout le monde se barre. C'est ce qu'on voit aux États-Unis. Les États démocrates dans lesquels on paye les gens à ne rien foutre, eh ben, ils se vident, et puis la Floride et le Texas prospèrent. Donc, encore une fois, il faut que les gens apprennent que s'ils crachent en l'air, ça leur retombe dessus. C'est-à-dire que la seule façon, par exemple, prenez l'euro. Qu'est-ce que ça a permis? L'euro, ça a permis de l'État d'emprunter de moins en moins cher. Normalement, si l'État avait fait toutes les bêtises qu'il a faites avec un taux de change fixe, le franc français serait effondré. Et les Français auraient fait la relation, État imbécile, monnaie qui s'effondre, mon niveau de vie qui baisse. Tandis que là, ça a été remplacé par une explosion de la dette. On vend de la dette française comme si c'était de la dette allemande, au même prix. Eh ben, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que vous donnez toutes les mauvaises habitudes aux Français. Et vous leur faites pas comprendre que quand il y a des relations entre les causes et les conséquences.
C'est pas à moi que vous allez dire ça. Dans mon essai précédent.
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est
entièrement d'accord là-dessus.
Et il faut le faire aussi au niveau local. Si le Languedoc décide de devenir communiste, ben qu'ils prennent des impôts à 80% et puis ils verront ce qui se passe. Parce que, encore une fois, la seule chose, c'est qu'il faut que les gens comprennent les relations entre les causes et les conséquences. Et j'adore cette phrase, je crois, de Bossuet, qui dit « Dieu se rit de ceux... » Vous la connaissez ?
Dieu se rit de ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes.
Dont ils chérissent les causes. Or, la France, c'est ça, aujourd'hui. Ils chérissent leur état social, ils chérissent leur grande générosité, qui n'est pas faite avec leur pognon, mais avec celui de leurs enfants. Donc, il faut que les gens réapprennent, et c'est à ce niveau-là que ça doit revenir. Les Suisses, là, on leur avait proposé de faire un SMIC à 4000 euros. Ils ont fait 4000 francs suisses. Ils ont fait un référendum, et la majorité des Suisses a dit c'est une grosse connerie. Tandis qu'au Parlement français, ça serait passé avec les applaudissements du public. Donc, encore une fois, il y a une différence essentielle entre la représentativité, qui était quelque chose qui était nécessaire au 19e, parce qu'il fallait 15 jours pour aller de Toulouse à Paris. Et le souverain, c'est pas le représentant, c'est le peuple. Donc il faut rendre au peuple la décision et ce qu'il veut dire, qu'il se rend compte quand il prend des mauvaises décisions pour ne pas la prendre la fois d'après. Moi, j'ai plein d'amis qui ont été ministres, qui ont été ceci, cela. Chaque fois, je leur disais, pourquoi t'as défendu ça? Ils disaient, parce que ce que les gens veulent. Je leur disais, mais ils t'ont élu pour que tu votes en fonction de ce que toi tu penses, non pas en fonction de ce que tu penses qu'ils pensent. Or aujourd'hui, on en est à ce niveau-là. La plupart des hommes politiques méprisent le peuple. Ils disent, ils pensent comme des, ils veulent qu'on leur donne de l'argent gratuit. On va leur donner de l'argent gratuit. Mais c'est honteux. Je sais pas.
Ah bah oui, non, mais moi je suis d'accord avec vous, mais là où je vous dis, je pense que c'est le bloc du désaccord, c'est que je pense que vous avez un point de vue. Qui est déjà le point de vue d'un libéral, et en plus le point de vue qui est quelque chose de très rare en France, qui est celui d'un vrai entrepreneur. Donc je pense que vous plaquez sur le peuple français des qualités qui sont les vôtres. Et je pense que si tous les Français étaient des Charles Gave, ce que vous décrivez, peut-être que ça pourrait marcher. Mais je pense que si votre système était mis en place, ça serait, je pense que ça risquerait d'être très problématique pour la France et que
mais pas plus que ce qu'on a aujourd'hui.
Oui, mais moi, la solution que j'apporte, c'est que je pense qu'il faut changer les élites et il faut changer la façon dont on les sélectionne, parce que c'est ça, pour ça, le vrai critère, c'est ça.
La France sélectionne ses élites en général après des guerres.
Bah, la voie qu'on prend, c'est avec l'écriture inclusive, en supprimant les concours et en donnant le bac à tout le monde. Donc, est-ce que c'est un meilleur système pour sélectionner ceux qu'on va appeler par rapport à celui qu'on avait, qui était très contestable, qui s'appelait l'ENA ? Je suis pas sûr.
Oui, mais c'est pour ça que vous avez vu que dans mon livre, je fais un ensemble de propositions, par exemple sur l'éducation, qui sont pas du tout dans le sens de...
Non, mais je vais vous donner une réforme de l'éducation dont j'ai souvent parlé ici, qui m'a bien plu. C'est qu'en Suède, quand ils ont fait faillite en 92, ils avaient une éducation qui était complètement comme l'éducation nationale française, un truc immense, une énorme... Bon, ils ont dit, bon, on a fait faillite, donc il faut utiliser mieux l'argent, il n'y en avait plus. Et donc, les Suédois adorent se parler entre eux, donc ils ont commencé à se parler, et ils ont dit, bon, est-ce que tout le monde est d'accord pour que les enfants soient bien élevés ? Ouais, ouais. Est-ce que tout le monde est d'accord pour que ce soit payé par les impôts ? Ouais, 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 on est tous d'accord. Troisième question, est-ce qu'on est d'accord pour que ce soit fait par des fonctionnaires ? Pas vraiment. Donc, ce qui s'est passé, c'est que chaque famille a reçu une espèce de ticket, c'est le ticket éducation. Cette famille peut constituer une école tout seul, liberté de création des écoles, et le rôle de l'État, c'est de vérifier que l'enseignement du programme, tel qu'il est défini par l'État, est fait convenablement. Donc, l'État est passé d'État producteur à État prescripteur. Et ils ont fait ça pour les transports en commun, ils ont fait ça pour les retraites, ils ont fait ça partout. Et du coup, vous sortez la CGT du corps de l'État français, qu'il est en train de gangréner et de foutre en l'air, enfin tous ces syndicats qui servent à rien. Donc ce que j'essaye de dire, c'est qu'il faut redonner, il faut commencer par l'éducation, redonner la liberté d'éducation. Autrefois, quand les jésuites décidaient d'ouvrir un collège à Reims ou à Amiens, ils ne demandaient pas la permission à l'État. Hein. Ils achetaient un terrain, ils faisaient une école, et puis les enfants venaient s'ils voulaient, mais c'était tout. Et les universités, ça a été fait par l'Église catholique aussi, sans demander l'avis de l'État. Hein. C'était... Donc, encore une fois, pensez que les gars là-haut vont comprendre ce qu'il faut faire. Non mais c'est pas les élites. Ce qu'il faut, c'est rendre le pouvoir de décision au peuple. Et on verra ce qui marche. Et le peuple verra que ben, finalement, le Texas est mieux géré que l'Illinois. Et ben, donc on va plutôt prendre les solutions du Texas que celles de l'Illinois. C'est-à-dire les solutions. Le problème sont tellement compliqués aujourd'hui que les solutions, à mon avis, sont au-dessus de la capacité intellectuelle de n'importe quelle élite. Et c'est par la pratique, en dessous, qu'on verra ce qui marche. Il faut retourner à la base.
Alors, je suis d'accord sur cette expérimentation, mais là encore, les exemples que vous donnez, vous prenez l'exemple de la Suède, qui n'est pas du tout la même culture, la même anthropologie que la France, vous prenez l'exemple des États-Unis, moi je veux bien, mais les États-Unis, c'est des États. Je veux dire, on compare des États. En France, je pense que là encore, c'est utopique d'imaginer que les gens vont dire, par exemple, le Languedoc, c'est nul. Et d'ailleurs, c'est ce que les gens font. Je vous ferai remarquer que c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les problèmes posés par l'immigration. Hein. Les gens quittent les endroits où il y a des problèmes, parce que l'État ne fait pas son travail.
Bien sûr.
Les gens quittent les banlieues, quittent les endroits...
J'en ai un exemple. On a reçu ici le professeur Le Maire, hein, qui s'appelle le gars de Trappe. Ben, il nous a donné une information, je ne sais pas si elle est vraie, mais je pense qu'elle est vraie. Il nous a dit qu'à Trappe, il y a 30 ans, il y avait 3000 familles juives. Il en reste 8.
Oui, bien sûr. Ouais.
C'est-à-dire que... qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'il y a des Français différents qui ne peuvent pas vivre... Il y a deux parties, mettons qu'il y a des Français musulmans et des Français juifs, ils ne peuvent pas vivre l'un à côté de l'autre. Les deuxièmes sont obligés de s'en aller. Mais c'est monstrueux. Donc, si vous voulez, c'est un État qui a failli dans tous les domaines, ça. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Donc, il y a une drôle de chose, c'est qu'il y a une faillite de l'État et en même temps une obésité de l'État.
Là, c'est exactement ce que j'ai écrit dans
Oui, exactement. Mais là, d'accord. Sur le diagnostic, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est les solutions qui m'embêtent.
Bah, moi, en tout cas, je resterai là. Je suis convaincu de ce diagnostic. Pour moi, le problème principal, c'est les gens qui contrôlent l'État. Et moi, je vous le dis, je pense que même si on revient au niveau, par exemple, au niveau local, vous aurez une élite locale qui va se reconstituer et qui aura exactement les mêmes problèmes.
Et bien, c'est peut-être là qu'il faut introduire le référendum d'initiative populaire, qui risque d'être mon dada, pour une raison très simple, c'est que cette élite, c'est elle qui détermine en quelque sorte l'ordre du jour. À l'Assemblée nationale, dans les palais nationaux, c'est cette élite. Il faut que l'ordre du jour retourne au peuple. C'est le peuple qui doit dire quels sont les problèmes et qui demande, par exemple, on veut un référendum sur l'immigration. On veut un référendum sur autre chose. C'est le droit de demander un référendum pour dire votre ordre du jour ne me plaît pas, par exemple, ils veulent nous faire un référendum sur l'écologie. Honnêtement, tout le monde s'en tape en France. Hein.
Mais sur les éoliennes, ça peut intéresser du monde.
On fait pas un truc sur l'écologie, mais on fait un truc sur les éoliennes. Donc ce que j'essaie de dire, c'est que les problèmes sont... On est dans une société qui devient de plus en plus compliquée, et ces problèmes sont de moins en moins même d'être traités par le haut. Donc il faut que les problèmes soient... Ce qui veut dire que ces problèmes sont appelés, sont dans l'ordre du jour, ne sont pas appelés par le haut. Ils sont appelés par le bas. C'est le bas qui doit décider quel est l'ordre du jour.
Moi, je mettrais vraiment une nuance à ça, c'est que je partage en partie ce constat, mais je pense qu'il y a une bonne échelle pour tout. C'est-à-dire, je pense, par exemple, qu'il y a des problèmes qui ne peuvent être traités que par le haut. Et il y a des problèmes qui peuvent être traités idéalement par le bas. Par exemple, toutes les questions qui sont liées à l'émigration, on parle de rémigration, des questions, etc., ça peut être traité que par le haut. Je pense que même dans une mesure, on en a déjà parlé par ailleurs, tout ce qui touche à la contraction énergétique, à la nécessité de transformer en profondeur nos systèmes de production, il y a une partie qui peut se faire au niveau local, ça je suis bien d'accord, mais il y a aussi une partie par des incitations fiscales, par diriger certains budgets.
Oh, les incitations fiscales, je méfie toujours. En général, il y a des incitations fiscales pour le terrain qui est celui du député qui va voter pour. Vous voyez ce que je veux dire? Les incitations fiscales, moi j'y crois pas du tout. Il faut que l'impôt soit le même pour tous, hein, quel que soit le. Je crois pas du tout aux impôts différenciés parce que ça fait qu'amener des. C'est comme ça avec des incitations fiscales qu'on a foutu l'agriculture française en l'air, quoi. Ça a été un immense succès. C'est encore un succès de Chirac, ça. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes aujourd'hui dans une société où la connaissance est largement partagée. Les gens ont l'internet, ils ont la télévision, ils savent à peu près ce qui se passe. Donc, la notion même d'élite est une notion qu'il faut abandonner. Il n'y a pas d'élite en Suisse. Enfin, personne ne se proclame de l'élite en Suisse. Et ils n'ont pas de chômage, ils n'ont pas d'inflation, ils n'ont pas de déficit extérieur.
La monnaie la plus forte du monde,
un excédent budgétaire, un excédent extérieur.
Mais ça ne les empêche pas d'avoir une industrie performante.
Une industrie extraordinairement performante. Donc, encore une fois, s'imaginer que je sais pour que... Parce que moi, vous savez, je suis dans la finance et je donne toujours un conseil à mes clients, mais qui ne rate jamais et qui marche toujours, c'est si l'État vous donne un avantage fiscal, vous n'investissez jamais. Parce que ça va se planter. Si c'était rentable, ça n'aurait pas besoin de subvention. Donc, vous êtes en train de dire que ma décision, ma connaissance est supérieure au choix du marché qui est fait par des millions de gens. Et ça amène toujours au désastre. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est si on faisait un peu confiance aux Français quand même une fois, plutôt que de leur dire « on va vous expliquer ce qu'il faut faire », si on leur disait « expliquez-nous ce qu'il faut faire, faites-le, expliquez-nous, de quoi vous voulez qu'on parle, quels sont les problèmes qui vous tracassent ?» L'écroulement de l'enseignement sans doute, probablement l'immigration, probablement la fin de notre industrie. Est-ce qu'on a besoin d'un code du travail de 3500 pages, alors qu'il fait 30 pages en Suisse? Peut-être pas. Mais si vous demandez à des spécialistes de le faire, ils vont vous bâtir des usines à gaz. C'est tout ce qu'ils savent faire.
Et d'ailleurs, ce qu'on vit dans la crise du Covid, c'est que cet État a envoyé des circulaires de 42 pages pour expliquer aux coiffeurs comment ils devaient couper les cheveux de leurs clients.
Et quels sont les produits essentiels et pas essentiels? Alors apparemment... Un mouchoir est essentiel, mais un ange, je ne l'ai pas. Alors, vous achetez des gros mouchoirs pour langer vos gamins, comment? Enfin, je veux dire, c'est... Quel est le crétin qui a pensé ça?
Mais vous savez, pour revenir à ce qu'on... Parce que moi, je veux vraiment...
On n'est pas si loin que ça, hein.
Oui, non, mais en plus, je voudrais dire quand même aux auditeurs, parce qu'on va avoir l'impression que je suis un défenseur de...
Non, pas du tout, pas si loin que ça.
Parce que... Non, mais c'est surtout parce que vous comparez une fois de plus la Suisse. Mais moi, je maintiens cette idée qui, pour moi, elle a une clé de beaucoup de choses.
Vous pensez que la France est différente?
Oui, je pense que la France est différente. Et je constate empiriquement qu'est-ce qu'on fait en France, c'est que vous dites en Suisse, il n'y a pas d'élite. Mais en fait, ce qu'on appelle l'élite française aujourd'hui, c'est juste la nouvelle forme de la noblesse. On a fait une révolution, mais on a gardé notre noblesse. Et on a décapité notre roi, mais on l'élit tous les 5 ans. Donc moi, je suis arrivé à cette idée.
Mais ça marche pas. On était le principal... Quand la France était extraordinairement décentralisée avec le système de justice qui n'était pas le même en Languedoc ou dans la région de Reims, c'était un système, et puis c'est la révolution qui a fait l'unification du droit en France. Mais à cette époque-là, la France était la première puissance du monde. Et en l'espace de 2 siècles, grâce à ce roi qu'on élit, dont on coupe la tête, ces élites qui changent jamais, eh ben, on est devenu une espèce de petite colonie de l'Allemagne. Donc, moi, ce que je dis, c'est que votre truc qui part de la tête comme ça, c'est ça qui tue la France depuis deux siècles.
Non, mais alors, ne dites pas mon truc, parce que déjà, c'est pas moi, ma vision, c'est pas ça, c'est ma vision, c'est il y a on vient d'en haut et on vient en bas. Il y a les deux dimensions.
Mais moi, ce que je veux dire, c'est ce dont on crève, c'est qu'il n'y a plus rien qui vient d'en bas et tout qui vient d'en haut.
Ah ben ça, mais ça, on est...
Donc, j'ai rien contre ça vienne d'en haut. Mais ce que je voudrais, simplement, c'est qu'on prenez, par exemple, l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, où sont des gens locaux qui arrivent, en principe, qui sont élus par la province. Eh ben, l'ordre du jour dépend du gouvernement. C'est l'ordre du jour. L'Assemblée nationale, l'ordre du jour est imposé par le gouvernement. Ce qui est quand même tout à fait stupéfiant. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale ne peut pas saisir des problèmes qui intéressent les Français.
On est arrivé à des conclusions complètement... sur des mêmes constats, on arrive aux conclusions différentes. C'est-à-dire, moi, ma conclusion, c'est qu'on supprime l'Assemblée nationale.
Ben, à ce moment-là, il faut le remplacer par le suffrage universel. Le référendum, moi, ça ne me gênerait pas du tout. Ça ne me gênerait pas du tout. Mais il faudrait peut-être aussi que un certain nombre de... Le problème de la justice, qui est très embêtant... C'est parce qu'aujourd'hui, on a une justice qui est complètement, qui fait partie du système exécutif et qui n'est plus indépendante et qui n'est plus autonome et qui n'a pas de façon de penser.
Mais là, il y a aussi un point qu'on n'a pas du tout évoqué, mais on revient toujours à ça, c'est la nature des gens. Par exemple, la justice, concrètement, cet exemple concret de la justice. La justice, elle a été noyautée. C'était une opération de gens qui ont noyauté la justice avec une idéologie et la volonté. Donc ça, c'est ce que je parle dans le livre. C'est cette guerre, des guerres de nous par des nouveaux moyens. Donc il y a aussi ce problème-là. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui... Il y a une naïveté en France sur la réalité de cette guerre. C'est-à-dire, aujourd'hui, on va redonner le pouvoir au peuple, etc. Très bien, mais il faut voir qu'en face du peuple, en face de nous, il y a des gens qui sont une vraie mafia. Je veux dire, qui fonctionnent comme une mafia, qui sont extrêmement organisés, qui sont extrêmement sophistiqués, et pour les affronter et pour leur arracher le pouvoir qu'ils exercent indûment, je veux dire, il faut une opération, je dirais presque militaire, pour les déloger. C'est pas juste d'arriver et de dire on a des bonnes idées, on voudrait que ça change, c'est qu'on est dans une guerre, on est vraiment dans une guerre.
Il faut leur enlever la légitimité.
Il faut leur enlever la légitimité, mais aussi il faut les identifier, il faut les neutraliser, il faut les, je veux dire, juridiquement et politiquement.
Je dis pas que ça sera facile, mais ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, en France, c'est qu'on a perdu notre souveraineté juridique et ils ont transféré les pouvoirs, la souveraineté française, à Bruxelles. C'est-à-dire qu'on ne peut plus aujourd'hui retrouver notre souveraineté juridique, donc contrer ce groupe criminel, sans sortir de Bruxelles. Je crois que c'est malheureusement, il faut le dire aux Français.
Il faut remonter, par exemple, vous parlez de Bruxelles. Combien de Français savent que toute la construction européenne, et ça, ça a été Couve de Murville, l'a dit à Philippe de Villiers, qui a fait un livre là-dessus.
Bien sûr.
C'est Jean Monnet qui travaille avec la CIA. Donc ça veut dire qu'en fait, les Américains...
Et c'était un projet des nazis aussi.
Oui, c'était un projet des nazis.
Ils ont pris un blueprint des nazis. Donc,
voilà, exactement. Donc je veux dire, ça veut dire que si vous voulez sortir de l'Europe, vous êtes contre certains intérêts à la fois allemand et en plus de ce qu'on appelle l'état profond américain. Donc ça veut dire que c'est pas une guerre que vous allez gagner juste parce que vous avez réussi à fédérer les gilets jaunes et à vous lever...
Vous la gagnerez pas si vous faites pas si vous n'avez pas d'abord relevé le peuple français. C'est-à-dire que le souverain en France, du moins c'est la conscience populaire, c'est le peuple. C'est pas Bruxelles, c'est pas... Donc il faut d'abord convaincre les gens qu'ils sont le souverain. Et que c'est à eux de se révolter. Si eux ne se révoltent pas, ben ça sert à rien. Moi, ce que j'essaie de dire, c'est ou vous reprenez le pouvoir vous-même, le peuple, ou eh ben, on passe aux oubliettes de l'histoire et on devient comme la Catalogne. Allez.
Mais
c'est dommage.
C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ça peut en effet marcher s'il y a un peuple de Charles Gave. Parce qu'on sait que dans n'importe quel groupe humain, il y a une minorité de gens qui sont des gens vraiment actifs. Et d'ailleurs, on le voit, la France, moi, ce que j'aime en France, et on l'a déjà dit dans notre précédent entretien, c'est que je trouve que le peuple français est d'une qualité extraordinaire.
Absolument.
Et il y a un vivier de talents qui existe. Mais, je veux dire, croire que tous les gens vont être impliqués, il y a beaucoup de gens...
Ce que je dis toujours, vous savez, c'est celui qui a changé le plus le monde, c'était quand même le Christ, et il avait que 12 gars autour de lui.
On est d'accord avec ça.
Dont 5 ou 6 qui étaient plus ou moins rien. Il avait venir Saint-Paul après.
La question, c'est là où on a aussi une différence stratégique, c'est que, est-ce que l'intérêt, c'est pas de prendre les vrais talents français et de les mettre... je dirais en haut de la pyramide pour qu'ils influent l'ensemble.
Ils deviendront mauvais.
Instantanément. La question, c'est est-ce qu'on en trouvera assez pour en mettre partout au niveau local?
Non, mais d'abord, on n'en trouvera pas, puis ensuite, ils deviendront mauvais instantanément. Vous savez, le pouvoir rend fou. Hein. Oui, mais pouvoir
alors,
en fond.
Alors oui, mais il faut bien que quelqu'un, que le pouvoir soit exercé.
Encore une fois, en Suède, toutes les élites voulaient qu'ils aillent dans l'euro. Et le peuple suédois a décidé de ne pas aller dans l'euro, et on est 20 ans après, ils s'en portent très bien, merci, et ils n'ont pas été dans l'euro. Mais il y a 54%, tous les Suédois étaient persuadés, moi j'ai un frère qui vit en Suède, je connais bien la Suède, ils étaient tous persuadés qu'il allait y avoir 80% de gens qui voulaient aller dans l'euro. Les Suédois ont dit non, non, on va garder notre monnaie, on l'a depuis toujours, on la garde. Donc encore une fois, on surestime le degré de pouvoir que peut exercer l'élite, et on sous-estime l'importance que ce pouvoir soit fondé sur une légitimité populaire. Moi, ce que je dis, ce que vous dites, c'est qu'il faut qu'on mette une élite convenable pour exercer les pouvoirs qu'ils peuvent exercer. Et moi, ce que je dis, c'est qu'il faut d'abord rendre sa souveraineté au peuple. C'est ça notre différent.
Mais en fait, je pense que moi, c'est pas vraiment indifférent, parce que je pense
que
les deux.
Non, pour ça qu'on veut faire les deux.
Les deux doivent être faits de façon concomitante, mais pas. Je veux dire, il faut en même temps qu'on développe. Mais c'est la même chose.
Dites-moi, vous avez des mauvaises fréquentations en même temps là. Ça m'inquiète beaucoup, ça.
Non, mais c'est pas le en même temps macronien, parce qu'on est. C'est une. Je veux dire, c'est comme.
Non, mais c'était un débat très intéressant, parce que quand même, c'est ces deux veines qui traversent la France, si vous voulez. C'est l'État comme solution ou l'État comme problème.
Mais je pense que là, voilà, c'est. Mais vous inscrivez dans la tradition libérale.
Dans la tradition libérale, on a raté une marche en France en 1792-93. On a choisi d'aller vers l'État centralisé, le massacre des Vendéens, etc. Alors qu'on aurait pu choisir la direction bordelaise, quoi. Mais on l'a pas choisi, les Girondins. Mais aurait-on choisi les Girondins, je suis certain que la France aurait été un beaucoup plus grand pays. Ben écoutez, j'espère que. Nos auditeurs sont contents de cette petite discussion un peu vive, mais il faut pas m'en vouloir, vous savez, je suis d'un naturel extraordinairement tolérant, j'aime bien mettre des claques aussi, donc j'aime bien la vivacité de la discussion, mais ça permet de réfléchir. En tout cas, j'espère que ça permettra à nos éditeurs de réfléchir.
Ben, j'espère aussi, mais vous savez, moi, ça ne m'a pas dérangé. Hein. Je suis un arrière-petit-fils de boulanger, et mon arrière-grand-père disait, si tu ne supportes pas la chaleur, rentre pas dans le fournil.
Exactement.
Donc, ça me va très bien,
mais c'est ça. Donc, merci beaucoup, et puis j'espère vous revoir encore, à l'occasion avant un autre bouquin. Mais en tout cas, on arrive à la fin d'une période où il va falloir... les jours qui s'annoncent vont être troublés.
Oui, je pense, en effet.
Donc ça, là-dessus, on est d'accord tous les deux.